Fidèles auditeurs, bienvenue dans cette deuxième partie d'Okapi Service. Nous allons aborder un thème qui va certainement vous intéresser. Là, nous sommes dans la vie sociale. Eh bien, nous allons parler de conflits des successions. Voilà, papa décède, il était polygame, il avait épousé plusieurs femmes, beaucoup d'enfants, et maintenant qu'il décède, les enfants entrent dans des conflits interminables, des successions, etc. Alors, comment prévenir ce genre de situations? On en parle tout à l'heure avec Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa à Gombe. Il est déjà là en ligne. Maître Willy, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue dans cette émission, Maître Willy. On vous retrouve dans quelques instants. Le sujet vous intéresse, appelez déjà au 081-890-6394. Écrivez-nous également à service@radiokapi.net. Tati Mapuku assure la coordination et la réalisation de cette émission. Dieudonné Nyangasa à la mise en onde au micro, Jody Daniel Kachama. Bienvenue à tous.
Okapi Métissage fait le point sur l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Au menu, musique, théâtre, arts plastiques, littérature, poésie, mode, gastronomie et tout ce qui se rapproche de la culture. Tous les samedis de 17h à 19h. En rediffusion, dimanche de 13h à 15h. Okapi Métissage, le creuset de la culture et des arts sur Radio Okapi.
Okapi. Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Les conflits des successions sont monnaie courante, surtout dans les familles polygames. Par exemple, en cas par exemple de la disparition du père, les héritiers, les enfants, c'est déchire au sujet du partage des biens comme les maisons, voitures, l'argent, etc. Et ces conflits parfois se terminent par des morts bizarres dans la famille. Il peut même arriver que le testament laissé par les défunts soit foulé aux pieds par les membres de la famille, les épouses ainsi que les enfants. Alors comment prévenir les conflits aux conséquences ce genre de conflits aux conséquences désastreuses. Nous avons en ligne Maître Willy Wenga qui est avocat. Maître Willy, encore une fois, bienvenue dans cette émission au Capi Service. La première question est de savoir qu'est-ce que la loi dit à propos de la succession. Comment la loi définit la succession?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. La loi ne définit pas la succession. Mais la loi considère que la succession de la personne s'ouvre dès qu'il vient à décéder. Mmh. Et lorsqu'une personne décède, la succession s'ouvre là où il résidait. Et la question fondamentale est de savoir qu'au moment de son décès, était-il marié ou célibataire? Marié, était-il légalement ou non? Et avait-il des enfants nés hors ou dans le mariage? Et c'est autour de tout ça que la question de la succession va tourner, dès lors qu'il faudra d'abord désigner un législateur qui devra, avec l'aide du conseil des familles, regarder toutes ces questions-là. Donc, on ne peut pas parler de la succession avant la mort de la personne, mais bien sûr, après que cette personne soit décédée.
Bien, on retient que la succession s'ouvre dès le décès du papa, par exemple. Alors, prenons le cas d'un monsieur qui était polygame. Il a plusieurs femmes et beaucoup d'enfants. Il décède. À ce moment-là, comment se fera la succession?
La succession, conformément à la loi, ne concerne pas les unions polygamiques. Il faut reconnaître que la succession en matière d'épouse concerne beaucoup plus la femme légitime. La première question, c'est que est-ce que le monsieur ou la femme, parce que la succession ne concerne pas seulement le papa, parce qu'on a tendance à croire que la succession ne concerne que le papa. Lorsque le papa ou la maman venait à décéder, et qu'il était en union conjugale, on doit savoir si cette union était-elle légale ou une union libre. La loi congolaise ne reconnaît pas l'union polygamique, mais reconnaît l'union monogamique célébrée ou enregistrée devant l'officier de l'état civil. Lorsque un mariage n'a pas connu l'arrestement devant l'officier de l'état civil, même la femme ou l'homme qui vit avec l'un ou l'autre ne peut pas se donner les statuts, par exemple, de veuf ou veuve. Et à ce moment-là, la loi a beaucoup visé les enfants en considérant que les héritiers de la première catégorie d'une personne qui venait à décéder sont ses enfants nés hors et dans et hors mariage, mais affiliés de son vivant.
Voilà. Alors pouvez-vous...
De telle sorte que...
Oui.
Que ces enfants-là soient de première, deuxième, troisième ou dixième femme, il n'y a jamais eu de ségrégation par rapport aux enfants. Tous les enfants sont égaux, qu'ils soient nés de la première ou de la sixième mère, quel que soit leur âge, parce qu'on trouve des successions ou des familles où l'aîné a 52 ans et le cadet a 3 ans. Donc, au sein d'une famille, tous les enfants sont égaux, nés hors mariage, nés dans le mariage, nés d'une femme concubine, nés d'une femme, je ne sais pas comment, vis-à-vis du papa, tous les enfants sont égaux. Et cette égalité-là doit aller jusqu'à la manière dont doit se partager la succession par rapport aux droits reconnus aux enfants. Par rapport à la femme, la loi ne reconnaît que la femme légitimement mariée. Quel que soit le nombre d'années que vous êtes resté avec un homme, si avec cet homme-là ou avec cette femme-là, il n'y a jamais eu une union légale, on ne peut pas prétendre à un quelconque droit tiré de la succession, encore moins tiré des régimes matrimoniaux, par exemple. Parce que lorsque un couple n'est pas légalement marié, on ne peut pas parler des régimes matrimoniaux. Et lorsque un couple n'est pas marié, le conjoint survivant ne peut pas prétendre à être héritier et par rapport au bien du décuyus, donc le conjoint prédécédé.
Et s'il arrivait, par exemple, que le monsieur polygame de son vivant a célébré plusieurs mariages, par exemple, il va à la commune de Kinshasa, le bourgmestre célèbre, il va à Mongafula, la deuxième femme, on célèbre sans savoir qu'il était déjà marié, et puis bon, voilà, et toutes ces femmes se retrouvent avec, disons, avec leurs mariés, elles sont reconnues. Maintenant, comment agir dans ces genres de situations?
La loi congolaise a ses dispositions pertinentes, considère comme infraction qu'on appelle la bigamie, le fait pour un monsieur ou une dame de contracter un second mariage illégal avant que le premier ne soit dissous. Si les deux bourgmestres ou trois sont de bonne foi parce qu'ils n'ont pas été informés du précédent mariage non encore dissous du monsieur ou de la dame qui est venu les saisir pour l'inscription du second ou du troisième mariage, par rapport au monsieur marié qui s'est remarié illégalement, ou par rapport à la dame mariée qui est encore se faire marier illégalement, ils sont auteurs de l'infraction de bigamie. Nous appelons ça l'infraction de bigamie. Et le mariage le plus valable, c'est le premier mariage célébré devant l'officier de l'état civil. Les autres mariages et les autres actes de mariage qui viennent après sont des actes frauduleux, c'est la tricherie, et lorsqu'il y a fraude et tricherie, ces actes-là ne sont pas valables, encore que les auteurs seront passibles de poursuites pour bigamie, infraction qui vient détruire la foi au mariage. Donc, cela est devenu de plus en plus monnaie courante, que beaucoup de gens quittent leurs communes respectives vont se marier ailleurs. Les gens quittent Kinshasa pour aller se marier à Kamituga, par exemple. Les gens quittent Kikwit pour aller se marier à Mwanda. Et lorsque cela est découvert, cela doit être sanctionné et l'acte de mariage annulé. Cet acte-là ne peut pas faire foi parce que c'est la turpitude, non seulement de celui qui présente cet acte comme preuve de son mariage, mais aussi de celui qui chercherait à se prévaloir de cet acte-là, qui est un acte frauduleux.
Bien. Alors donc il n'y a que le premier mariage qui est reconnu par la loi. Voilà. Maintenant que le monsieur ou la dame décède, laisse des biens, les enfants entrent en conflit, les mamans sont derrière aussi. Il faut tout faire pour avoir aussi ta part et puis mettre quand il y a une situation conflictuelle comme ça et que on amène des problèmes devant les cours des tribunaux. Qu'est-ce qui va se passer après?
devant les cours et tribunaux, il se poserait des problèmes s'il n'y a pas un liquidateur. Parce que souvent, les conflits viennent de deux choses. Soit le monsieur qui était polygame, étant décédé, il a mal fait les testaments, un testament en violation de la loi. Soit le monsieur qui vient de décéder n'ayant pas laissé le testament, c'est-à-dire sa succession, et ce que nous appelons la succession ab intesta, il laisse plusieurs enfants, plusieurs femmes. À ce moment-là, il faut qu'il y ait un liquidateur. Et le liquidateur a comme rôle d'abord de faire, avec l'aide du conseil des familles, de déterminer les conjoints survivants, de déterminer le nombre des enfants, et aussi d'identifier les biens laissés par les Dekuyus. Il se pourrait que du vivant des Dekuyus, que celui-ci ait à donner ses biens à certaines personnes, peut-être à une femme, à une troisième, quatrième femme. Nous avons ce que nous appelons à droit le principe du rapport du bien donné par les Dekuyus. Ces biens ont été rapportés à la succession. Mais sur le plan de droit, aucun problème ne se poserait, monsieur le journaliste. Aucun problème ne se poserait parce que le droit a déjà tout prévu au motif que tous les enfants sont égaux. Ces enfants-là, quelle que soit leur maman, ils sont égaux. Mais malheureusement, sociologiquement, ce sont les mamans-là qui chacune inoculent de mauvaises idées aux enfants. Ce sont ces mamans-là qui, par erreur, pensent qu'elles ont droit à ceci ou à cela, alors que tel n'est pas le cas. Ce sont ces mamans-là qui, du vivant du Dekuyus, ont fait mettre tel bien à leur nom ou ont fait changer un bien du Dekuyus au nom des enfants. Ça pose des problèmes. Un autre problème aussi, c'est lorsque certains enfants ont bénéficié des biens de la part de leur papa ou de leur maman et reviennent encore comme héritiers. Il y a certains héritiers qui considèrent que tel frère ou telle sœur ayant déjà eu un bien lui donné par papa ou par maman de son vivant, il ne devait plus venir comme héritier, ou s'il veut revenir comme héritier, il devait faire rapporter les biens de la succession. Donc le conflit n'est pas né du droit, mais le conflit est beaucoup plus de l'état d'âme. L'état d'esprit des gens. Et surtout qu'il y a maintenant beaucoup de souffleurs, les papas, les qui, les oncles, les tantes, qui par jalousie ou se disant que si tel enfant a moi, j'aurai. Et lorsque même la famille vient entrer là-dedans pour réclamer aussi sa part. Parce qu'il faut déjà noter que en matière de succession, la famille a droit seulement à 25% et les enfants droit à 75%. Que les enfants, qu'il y ait un seul enfant, ou deux, ou trois, la part de l'enfant, s'il est seul, c'est 75%, qu'il soit 10, c'est 75%, et la famille est 25%. Mais dans la plupart des cas, la famille aussi vient dedans, vient entrer dedans, cette famille qui veut tout prendre aussi,
oui.
La tante qui veut prendre tous les biens de son frère, il y a un papa Kouloutou qui vient du village.
Qui veut aussi tout prendre.
Il veut aussi prendre. Il quitte là, dans le Congo central, dans les fins fonds de Kinzambouete.
Il vient chercher les biens de son frère.
Il vient chercher sa part. Oubliant qu'il en a que lui et toute la famille n'ont que 25%. Et dans le 25%, il y a aussi les conjoints survivants, c'est-à-dire la femme ou l'homme qui a la qualité de veuf ou veuve légale. Donc le 25%, ce n'est pas seulement la famille, mais la femme aussi légalement mariée, ou l'homme légalement marié. Et tout ça, c'est la guerre des biens. Et la guerre des biens peut ne pas être juridique, sociologique, et vient là-dedans. C'est la peur qui entre parce que la sorcellerie entre là-dedans, et il y a la veuve avec ses enfants qui parfois abandonnent tous les biens entre les mains de la famille parce que il faut sauver la vie des enfants et laisser les biens parce que souvent on dit aux enfants, vous êtes encore jeunes, vous aurez toujours, les biens c'est rien. Mais là aussi, par peur, on abandonne ses propres droits.
Par peur de la sorcellerie.
Par peur de la sorcellerie.
Bien, donc on retient que tous les enfants ont droit à la succession. Vous avez d'ailleurs venu de citer les différentes catégories des héritiers. On va accueillir les auditeurs. Charles nous appelle de Lumbashi, Malonga est à Bandunduville. Et puis, on va accueillir d'autres auditeurs. La question vous intéresse. Vous avez des exemples, vous avez des témoignages dans votre milieu. Vous avez vécu ces genres de situations. Appelez pour partager avec les autres dans cette émission. Le standard est ouvert, 081-890-63-94.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas manquer, les nouveaux disques, peintures et photos, les expositions à voir, les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Capi. La culture congolaise est bien vivante et nous la mettons en valeur. L'agenda culturel, c'est du lundi au vendredi à 7h50 et à 8h50 et samedi et dimanche à 6h50 et 7h50.
Bien, Maître Willy Wenga, avocat au barreau de Kinshasa Gombe, l'invité de Capi Service pour parler des conflits de succession dans les familles polygames. Nous avons des auditeurs en ligne. Charles, vous êtes à Lubumbashi et Malonga à Bandouville. Bonjour Charles, quelle est votre préoccupation?
Oui, bonjour Jody, bonjour aussi à Willy Wenga. Je suis vraiment content d'entendre un tel thème, un tel sujet qui me rappelle les de mes travaux défendus à l'université. Alors, quand nous étions encore à l'époque, nous avons mené autant de recherches et comme résultat, comme réponse, nous avons compris que si nous assistons souvent à des conflits, à des bagarres, à des injures, à des séparations pendant l'héritage, c'est parce que tout simplement l'État a allégué sa participation au conseil de la famille, au liquidateur. Alors, or, c'est ici même où la sorcellerie commence en Afrique subsaharienne. C'est pourquoi nous demandons, nous profitons de cette opportunité ici. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que l'État puisse assister à un héritage, à une succession quelconque? Parce que trop c'est trop, nous avons compris que l'homme noir nous a prouvé vraiment ses limites. Vous verrez même, c'est lui que l'on ne pensait même pas, mais à pareil moment vraiment, il devient Wayambar, il affiche un comportement là, on ne sait même pas comment ils auront les formations que tel est décédé à l'Ouvashi. Or, quand les Dekouyous étaient encore vivants, aucun appel, aucune visite à la maison, mais dès qu'il y a seulement héritage qui souffre quelque part, vous verrez tout le monde. Même nous voyons même les faces là que l'on n'avait jamais ni vu ni entendu tout au long de notre existence. Alors, au lieu d'abandonner cela au conseil de la famille tout simplement, et comme conséquence il y aura dislocation, nous demandons à ce que l'État puisse récupérer l'affaire. Voilà un peu ce que nous avons voulu placer comme.
Merci Charles. Malonga, bonjour.
Bonjour Jody et bonjour à tous ceux qui nous suivent. Mais je suis ici à Kinshasa avec vous.
Vous êtes ici à Kinshasa. Nous parlons des conflits de succession dans les familles polygames. Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus?
C'est très grave Jody, c'est très grave. Dans une famille d'abord monogame, en tout cas ça dérange. Raison pour laquelle je peux m'allier aussi à mon confrère de Lubumbashi qui dit que l'État aussi peut aider, malgré que l'État n'a pas vraiment de pouvoir dans des familles, puisque l'État ne marie pas, ne gère pas vraiment des familles. Il faut que l'affaire de la famille passe en famille. Mais comme si la famille se voit vraiment incapable de résoudre cette situation, alors il faut que les tribunaux s'en chargent de ça pour régulariser les choses. Je vous dis, est-ce que vous pouvez comprendre que l'homme de son vivant, hein, comme l'invité vient de dire là-bas, il avait deux femmes ou bien trois femmes. Mais ce sont les femmes qui mettent vraiment, qui préparent déjà les querelles après la mort de leur mari. Pourquoi? Parce que chaque femme qui a mis au monde ses enfants avec un seul homme, la femme là va introduire des propos et des instructions qui vont préparer les enfants à se chamailler après la mort de leur père. Puisque la femme, la première femme, va se connaître que c'est leurs enfants qui auront droit à l'héritage. L'autre aussi, et les autres qui suivent, il se voit que non, mes enfants, leurs parents, c'est toujours ce même homme là-bas. Alors s'il y a un cas de décès de leur mari, les enfants vont susciter les paroles leur données par leur maman. Et c'est ce qui engendre tout ça.
Donc ce sont les mamans qui mettent le feu aux poudres, si on peut le dire ainsi.
Oui, qui prépare
les conflits.
Oui, ils préparent les conflits. Alors, raison pour laquelle, c'est que la Bible a refusé la polygamie. En tout cas, c'est toujours normal. Mais dans la famille monogame, oui, il y a des conflits, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. C'est rapidement résolu, même par la famille, même par les enfants eux-mêmes. Mais dans la famille polygame, c'est les femmes qui préparent avant la mort de leur mari. Puisqu'ils introduisent des propos vraiment conflictuels à ses enfants. Et raison pour laquelle les enfants eux-mêmes ne s'entendent pas. Bon, comment est-ce qu'ils vont s'entendre à hériter les choses de leur père? Raison pour laquelle l'État... Bon, moi, je ne vois pas aussi le pouvoir de l'État s'il peut intervenir là-bas. Parce que si l'État intervient, il va violer aussi l'entité familiale. Alors, pour moi, je vois que la polygamie, ce n'est pas à souhaiter.
Merci. Ce n'est pas à souhaiter, merci. Maître Willy Wenga, vous avez la parole.
Merci beaucoup. Je pense que je viens de suivre les auditeurs. Et je vous avoue que l'État intervient déjà parce que l'État intervient à plusieurs niveaux. D'abord, en nous dotant d'une loi qui précise qui est femme légitime, qui ne l'est pas, qui est héritier, qui ne l'est pas, qui est héritier de première catégorie, qui ne l'est pas, comment se partagent les biens dans une succession, l'État est déjà intervenu à ce niveau-là. Au-delà de tout, l'État intervient aussi pour départager les parties en conflit, parce que lorsque, avec les conseils de famille et les liquidataires, la famille ne parvient pas à s'entendre, les membres de famille ne parviennent pas à s'entendre, ou les enfants de plusieurs lits ne parviennent pas à s'entendre, bon, la justice va entrer là-dedans, et qui dit justice dit l'État. Donc, on ne peut pas parler de l'État comme une institution qui doit venir avec une autre manière de faire, mais la meilleure de tout, c'est de vider toutes les questions de la succession au sein de la famille. Ce qui est important ici, c'est que les gens doivent être justes, les gens doivent être honnêtes. Dans beaucoup de familles, on ignore les droits des orphelins. Dans beaucoup de familles, on ne reconnaît pas les droits des orphelins. Trop de discours sur la tombe, trop de discours lors de l'enterrement, trop de promesses, mais tous ceux qui promettent là sont les premiers à ravir les biens des héritiers, par exemple. Si chacun savait déjà à l'avance quel est son droit sur le bien laissé par les Gekuyus, je pense que au-delà de connaître ses droits, on devait en prendre acte. Mais c'est comme si, dans nos sociétés, comme on a toujours un seul ou deux qui émergent, et 90% des membres de la famille restent dans la pauvreté, tout le monde a les yeux tournés vers ceux-là qui ont émergé et considère que tous ces biens sont les biens de la famille. Alors que le bien d'un monsieur sont le bien de ses enfants d'abord, de son épouse et de la famille. Donc, il faut qu'il y ait une pédagogie nationale par rapport à la vulgarisation de loi. Parce que si les gens reconnaissaient ce que dit la loi, j'ai une émission chaque mardi quelque part, que dit la loi, et lorsque vous entrez dans l'esprit de la loi, vous allez vous rendre compte que si chacun connaissait la loi, comprenait la loi, et prenait acte de ce que la loi prévoit, au-delà des états d'âme et au-delà des esprits malicieux à vouloir s'enrichir sur le dos d'un mort, il n'y aurait pas tous ces conflits. Il y a des gens qui vous sourient aujourd'hui parce que vous êtes vivant, mais demain, il suffit qu'un papa meure.
Il change, change d'attitude.
La veuve devient une personne à abattre. Les veuves souffrent en République du Congo. Surtout à Kinshasa, ici, les veuves souffrent. À la minute, les personnes à qui on servait à manger le matin à midi le soir par la veuve. Non, demain, c'est cette personne-là qui est au tribunal avec la veuve. Parce que la veuve veut protéger les biens de ses enfants mineurs, par exemple.
Alors, Maître Willy, vous avez dit tout à l'heure que la loi ne reconnaît que la première femme et tous les enfants s'ils ont été affiliés, déclarés, qu'ils soient du premier ou deuxième ou troisième lit. Alors maintenant, comment se fera maintenant le partage des biens dans un contexte des conflits, tout ça, des sorcelleries, comment ça va se passer?
Non, le partage des biens est déjà prévu par la loi. C'est-à-dire, un, lorsque quelqu'un vient de décéder, 75% de ses biens reviennent à tes enfants. 25% à sa femme légitime et à ses pères et mères, frères et sœurs. Là, on appelle les héritiers de deuxième catégorie. Donc, le père et la mère de la personne décédée, ainsi que son épouse, parce que nous parlons de père, sont ses héritiers de deuxième catégorie. Mais il ne faut pas oublier quelque chose d'important. C'est qu'avant qu'on ne parle de succession, il faut d'abord qu'entre un homme et une femme légalement mariés, qu'il y ait dissolution du régime matrimonial. Et la guerre commence par là. Parce que le régime matrimonial choisi par le couple définit et détermine la part de bien qui reviendra au conjoint survivant et à la personne décédée. Or, c'est sur la portion de la personne décédée, ici papa, parce que nous parlons de papa polygame, que c'est sur la partie qui lui revient après dissolution du régime matrimonial que va s'ouvrir la succession. Mais qu'est-ce qu'on voit? Avant qu'on dissolve la succession, la famille vient fermer la chambre. La famille bloque les comptes. La famille fait sceller les magasins.
Voilà.
Alors que dans les magasins, dans la chambre et partout, il y a encore une part de la femme relativement au régime matrimonial choisi. Et principalement, tous les chrétiens de Kinshasa ici, de la RDC, aiment choisir le régime de communauté des biens, universel des biens. Cela signifie quoi? Cela signifie que la femme et l'homme sont en copropriété des biens en raison de 50%. Donc la succession ne s'ouvrira pas sur 100% des biens, mais sur les 50% de la partie revenant au mari décédé.
Maître Willy, imaginons que le monsieur est décédé, il laisse 40 enfants. La première femme n'a que 3 enfants. Alors maintenant, comment on va partager les biens à tous ces enfants-là?
On va prendre les 75% revenant aux enfants, divisé par 40 à part égale. La loi dit, à l'intérieur de chaque groupe, en termes de catégorie successorale, le partage se fera à part égale. Donc, il est vrai que c'est la maman qui a 2 enfants aura une portion dans les 40 qui est 100%. Il aura la part de 2 enfants
et sa propre part.
Les 38 enfants auront chacun une portion. C'est-à-dire qu'on ne peut jamais dire que comme moi je suis la femme légitime, mes 2 enfants sont nés dans le mariage, donc mes enfants auront plus que tous ces enfants nés des autres femmes que parfois abusivement, on appelle les Banamakangu, ou on appelle les bâtards, ou on appelle quoi. Ces termes-là sont des termes illégaux. La loi parle d'enfants nés hors mariage qui a le même droit que les enfants nés dans le mariage. Et lors de partage de leur 75%, qui est les 100% de droits reconnus aux enfants, chaque enfant a droit à une part égale aux autres. Et c'est là où, maintenant, les femmes, les troisième, quatrième, cinquième, dixième femmes, parfois, sont malignes. Si elles sont informées de cela, vous allez trouver une femme qui a été épousée sixième femme ou cinquième femme, c'est chaque année qu'elle met au monde parce qu'elle sait que, n'ayant aucun droit à avoir sur mon mari comme femme, parce qu'elle n'étant pas légitime, il faut que ces droits, je les récupère sur le nombre d'enfants à avoir. Et voilà, comme ça, en peu de temps, une jeune femme épousée a 8 enfants. Et la première femme qui n'a que 2 enfants,
oui.
Assiste, bon, bien sûr, bon, il y a des problèmes parfois en termes de conception qui se présentent. Mais à un certain moment, par rapport aux enfants, celui qui a plus d'enfants, ses enfants auront plus parce qu'ils sont plus nombreux que les autres.
D'accord. Maître Willy Wenga, nous vous disons merci. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette question épineuse des conflits des successions dans les familles polygames. Je rappelle que vous êtes avocat au barreau de Kinshasa Gombe. Merci, excellente journée et à la prochaine.
Merci beaucoup, cher ami. Je salue tous les auditeurs de Radio Capi. Je reste à votre disposition pour toutes les questions de droit.
Merci.
Vous êtes une femme leader, vous connaissez une femme leader.
Responsable politique, haut cadre d'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires. Connectons-nous, faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 629 11 54 ou alors par email femmeleader@gmail.com.
Bien, nous parlons de conflits des successions dans les familles polygames. Merci à Maître Willy Wenga. On va accueillir à présent le professeur Lapika Dionfumu. Il est socio-anthropologue. Bonjour, professeur.
Bonjour à vous-même et à tous les auditeurs de Radio Cap.
Bienvenue, professeur. Avant d'aller plus loin, on va accueillir un auditeur, Eddy Kamaï de Chikapa. Bonjour, Eddy. Bonjour, Eddy. Il n'est plus là. Bien, je reviens à vous, professeur. Sur le, nous parlons des conflits des successions après les décès du papa ou de la maman. Souvent, c'est on parle du papa polygame qui avait plusieurs femmes et beaucoup d'enfants. Lorsqu'il décide, pourquoi cela donne lieu toujours à des conflits et parfois il y a des insultes. Les enfants en arrivent parfois aux mains. Il y a des décès bizarres. On dit la sorcellerie africaine s'en mêle, etc. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à tout cela?
Bien, je crois que nous sommes devant plusieurs cas de figure. La société congolaise, comme vous le savez, c'est une société pluriethnique, où nous avons plusieurs ethnies, plusieurs tribus, et chaque ethnie, chaque tribu a ses traditions. À côté de ces sociétés traditionnelles, nous avons la société moderne dans les grandes villes, constituée essentiellement par des individus qui sont lettrés ou qui ont été à l'école, en tout cas. Mmh. Et la gestion des conflits, la gestion plutôt de la succession varie d'une société à une autre, et comme parfois aussi d'une famille à une autre. Si nous prenons le cas que nous vivons dans la ville de Kinshasa, pour ceux qui sont à Kinshasa, nous sommes devant une confusion des traditions. Confusion pourquoi? Parce que il y a une catégorie de personnes lettrées qui ont pris connaissance du code de la famille, et qui gère la succession comme le juriste qui nous a précédé tout à l'heure. Mmh. Et en ce moment-là, lorsque les deux familles ou lorsque toutes les personnes qui sont bénéficiaires d'un héritage sont au courant de ce que la loi impose, là théoriquement il n'y a pas de problème. Théoriquement, parce que les gens savent que la répartition est de 25% ou 75% aux enfants, etc., etc. Mais le problème naît quand? Le problème naît lorsque vous avez des gens qui sont au parfait de la loi et d'autres qui ne connaissent pas la loi et qui, eux, se réfèrent à leur tradition, à la tradition ethnique. Eh bien, ceux qui ne connaissent pas la loi vont chercher à faire appliquer ce que la tradition leur dit ou leur demande de faire. Et c'est dans ce moment-là que les conflits naissent. Je prends un exemple très simple. Lorsque vous êtes originaire d'un groupe ethnique matrilinéaire ou patrilinéaire, la gestion de l'héritage de la succession sera tout à fait différente. Dans une société matrilinéaire, eh bien, l'enfant appartient au clan de sa mère, ce qui signifie que les biens du père n'appartiennent pas aux enfants. Les biens du père appartiennent au clan du père, c'est-à-dire à ses neveux. Et quand on sait qu'on n'est pas neveu, eh bien, on n'a pas à revendiquer les droits du neveu. Lorsque on est dans une société patrilinéaire, on sait très bien que les enfants appartiennent au clan de leur père, donc c'est de leur droit de revendiquer les biens de leur père. Et le neveu, en ce moment-là, il n'a pas de droit. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est l'absence d'une gestion rationnelle entre ces deux approches, l'approche traditionnelle et l'approche dite moderne. Dans la ville de Kinshasa, même si nous disons que ce sont des lettrés, mais c'est pas parce qu'on est lettré qu'on connaît le code de la famille. Donc, dans la ville de Kinshasa, la plupart des gens qui se disent lettrés, ils n'ont jamais lu le code de la famille. Donc, ils ne savent pas comment est-ce que la loi a réparti les successions. Et rien. En ce moment, ils font appel à leur tradition. Et en faisant appel à la tradition, ils violent la loi. Et finalement, pour les mettre d'accord ou pour les départager, on est obligé d'aller parfois dans les tribunaux. Dans les tribunaux. Alors, je me dis que il y a encore un travail à faire en deux étapes. Premièrement, il faut vulgariser le code de la famille, ça c'est vrai. Mais en même temps, puisque nous sommes conscients que la façon dont le code de la famille a réparti les droits de succession pose problème, c'est qu'il doit y avoir une révision, une revisitation de ce code de la famille pour essayer d'intégrer les éléments qui nous évitent de déboucher sur des conflits de partage.
Professeur, déjà, le départ, comment expliquez-vous qu'un monsieur se retrouve avec 40 enfants, 10 femmes, 15 femmes? Donc, on peut dire que c'est lui-même qui prépare déjà les conflits après sa mort.
Bien, c'est exact que lorsque vous avez 10 femmes et 40 enfants, c'est clair que vous déboucherez sur des conflits lorsque vous les sortez de la gestion traditionnelle. Mais quand vous êtes dans votre village, où tout le monde sait que avoir 2-3 femmes, ce n'est pas un problème, et les 2-3 femmes connaissent leurs droits, les 30 ou 40 enfants connaissent aussi les limites de leurs droits, dans un milieu, dans un village traditionnel, cela n'occasionne pas des conflits. Cela n'occasionne pas des conflits. Les conflits naissent en milieu urbain. Vous savez que vous êtes dans une ville et vous vous encombrez de 3 ou 4 femmes, vous vous encombrez de 30, 40 enfants, c'est certain que vous préparez des conflits vous-même. Il faut savoir se situer par rapport au contexte sociétal dans lequel on évolue. Je ne suis pas là pour condamner telle ou telle pratique, mais je suis là pour faire observer que les pratiques doivent évoluer dans un contexte qui leur donne un mode de gestion qui soit adapté à ce contexte-là. Malheureusement, c'est pas le cas dans la ville.
Voilà. Alors, il y a déjà, le monsieur décède, il y a des conflits déjà entre les enfants, la succession, et souvent on apprend, l'invité nous a dit tout à l'heure, ce sont les différentes mamans, parce qu'elles n'ont pas les droits à l'héritage, alors elles vont entêter leurs enfants, les pousser à se battre, et puis voilà. pour avoir une bonne part. Alors, comment résoudre ces genres de mésententes au niveau des familles? Et vous prenez encore les oncles et les autres qui viennent du village, qui n'ont jamais été ici, et qui débarquent pour venir chercher leur part.
Malheureusement, la société congolaise actuelle aura difficile à résoudre ces questions. Parce que même si on dit nous allons appliquer le droit moderne, mais le droit moderne lui-même, il est assis sur un droit coutumier. Hein, l'exemple que vous évoquez lorsque quelqu'un meurt, mais qu'est-ce qu'on fait? On appelle d'abord l'oncle resté au village pour qu'il vienne. Et pourquoi on l'oublie pas? Et quand il est là.
Mais il y a des oncles au village qu'on a, on les appelle pas, ils viennent d'eux-mêmes.
oui, c'est vrai. C'est vrai, même si vous les appelez pas, ils viennent d'eux-mêmes parce qu'ils savent que ils ont des droits à revendiquer. Alors, et quand ils arrivent, de quel droit vous allez leur empêcher de prendre parole et de dire ce que eux ont l'habitude de faire chez eux? Qui est habilité à faire taire l'autre? Et au nom de quel principe? On peut dire que l'oncle venant du village, il doit laisser ses traditions au village. Mais malheureusement, il a quitté le village et il vient dans la ville. Donc, il y a quand même un problème réel dans la gestion de ce genre de situation pour lequel j'ai toujours milité pour qu'il y ait des études approfondies d'anthropologie culturelle et que on nous montre quel est, pas qu'on nous montre, qu'on nous présente le contexte évolutif de la société congolaise et qu'on procède par des adaptations qui soient favorables aux uns et aux autres.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Boumedia et Talumbashi, bonjour. Vous sortez entrecoupé, je vais vous demander de bouger un peu, Boumedia.
Moi, c'est devenu temps, je ne passe plus. Hein.
Ben,
je
voilà.
Suis toujours entrecoupé comme hier.
Voilà, c'est pas nous, le réseau, allez-y, qu'est-ce que vous avez à nous dire? Veuillez bouger un tout petit peu, peut-être que ça va.
J'ai déjà bougé, je suis très loin.
D'accord, allez-y.
Donc, je pense que le problème commence à la genèse. Comme nos deux invités ont épinglé un peu cette genèse-là, c'est quoi? Je vous dis, quand vous étiez jeune, vous avez vu vos frères, les grands et les petits. Vous vous attendez facilement. Sans problème. Le petit peut porter tes pantalons, tes chemises sans problème. Dès que tu deviens fiancé, tu mets cette fille dans la maison, le comportement change. Et chez toi, il n'y a que les frères et les sœurs de filles qui viennent. Les frères viennent difficilement. C'est ça la genèse de nos problèmes. Puisque nous oublions nos origines. Même dans la Bible, on a parlé de généalogie de Jésus. Mais pourquoi nous, Africains, nous oublions nos origines? Quand il y a un problème, quand mon frère ne vient pas à la maison, mes enfants voient. Et ce caractère, cette habitude va rester dans les enfants. Non, on ne peut pas aller qui a les craquettes, qui a les craquettes.
Maintenant, Boumedian,
quand les enfants vont grandir,
oui.
C'est le même comportement.
Oui, alors pour un monsieur qui décède et polygame, il laisse beaucoup d'enfants, les femmes, tout ça, il y a trop de conflits. Maintenant, d'après vous, comment on peut résoudre ces problèmes?
Comment on peut résoudre les problèmes? Les problèmes sont les enfants de ce polygame-là, sont ses enfants. Et ceux-là qui devraient les déterminer, ce sont ses frères, que la première dame ne peut jamais accepter. Quand il va dire, cet enfant appartient à notre frère, c'est lui qui nous a dit, puisque l'homme ne doit pas tout dire à sa femme. Ce sont ces frères-là qui vont déterminer les enfants que la première va rejeter.
Et généralement, la première ne va
vous
pas les accepter.
Aussi que maintenant, pour donner à un enfant le nom d'héritier, ça devient difficile puisque c'était en complicité avec sa maman. C'est une remarque que j'ai déjà faite, ça fait 10 ans. Et vous allez voir que le nom d'héritier n'est plus dans les gens, dans les enfants. Et un papa ne peut jamais accepter son fils héritier. Puisqu'ils se complotent avec sa maman pour qu'il parte et lui laisse les biens. Mais ils ont un homme, même si vous êtes à deux, s'il n'y a pas l'entente dans la maison, vous allez toujours vous disputer d'où le bien à deux.
Voilà. Donc,
c'est ça ma petite contribution.
Merci beaucoup. Yves, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur Jodi. Bonjour, la radio Capi. Bonjour, tous les auditeurs.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire par rapport au conflit des successions dans les familles polygames?
Bon, je crois qu'il y a un éminent juriste qui a déjà parlé. Le conflit dans ce genre de matière naît souvent de la méconnaissance de la loi, parce que la société congolaise, nous la connaissons évidemment, et les règles qui ont été édictées sont inspirées de nos réalités. Mais lorsque plus souvent les découillus meurent, au lieu d'observer les règles de jeu, plus souvent, vous allez observer que les gens restent cantonnés dans leur coutume. Voilà pourquoi il y a plus de conflits qui naissent. Et moi, je pense que si nous devons beaucoup plus civiliser encore le conflit, nous souhaiterons que lorsque le Lucus, avant qu'il meure et qu'il sait qu'il a un ensemble de biens qu'il doit laisser, c'est mieux de faire un testament partage. Donc, déterminer déjà les personnes qui doivent venir à sa succession, le bien qu'ils doivent avoir en termes de succession, etc. Ça va aider à ceux qui sont restés à s'en tenir à ces testaments-là.
Mais donc, les parents africains, quand vous leur parlez des testaments, c'est comme si vous souhaitez déjà... ils n'aiment même pas entendre parler de ça ou faire des testaments. Ils se disent, ben, ça c'est préparer ma mort.
Mais c'est ça, évidemment. Une société se développe en fonction des principes qu'elle s'édicte. Dès lors que nous sommes tombés d'accord que nous devons être une société moderne, nous ne pouvons pas reculer. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas prendre la mentalité rétrograde, ramener encore sur la place publique. Voilà pourquoi les gens ne veulent pas avancer. Donc je crois que un auditeur a dit qu'il faut vulgariser aussi les codes de la famille. C'est très très important. Je crois que dans le milieu le plus reculé, beaucoup de gens n'ont pas la culture de la règle, n'ont pas la culture de ces textes-là, alors que le législateur congolais a vraiment réglé la matière de la succession dans les détails, de telle sorte que si on observe seulement les règles, il n'y aura pas trop de conflits. Mais quand les conflits naissent, je crois que il y a les cours de tribunaux qui doivent intervenir de manière à ce que tout le monde soit, le partage soit équitable conformément à la règle.
Merci, merci Yves. Professeur Lapika, est-ce qu'on peut dire que la solution c'est laisser un testament et vulgariser les codes de la famille?
Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas.
Ça ne suffit pas.
Lorsqu'on laisse un testament à... Tout est fonction de l'esprit de celui qui veut appliquer le testament. Et je ne pense pas qu'on arrêtera les conflits. Je crois que ce qui est important pour moi, c'est que l'État congolais doit approfondir la connaissance de nos traditions d'abord. Je crois que c'est important. Et une société qui n'est pas basée sur ses traditions, c'est une société fragile, parce qu'elle ne sait pas où tenir. Hein, c'est le cas maintenant. Est-ce qu'il faut tenir à la tradition? Est-ce qu'il faut tenir au code de la famille? Eh bien, les uns s'accrochent au code de la famille, les autres s'accrochent à la tradition, d'où la naissance des conflits. Vous savez, une société comme la société japonaise. La société japonaise, c'est une des sociétés, une des rares sociétés à travers le monde qui a réussi à se moderniser sans renier ses traditions. Et c'est un exemple qui doit faire école pour nous. Nous sommes lancés la tête baissée dans la modernisation, croyant que la modernisation allait résoudre nos problèmes, mais voilà, les traditions nous rattrapent aujourd'hui. Ceci est vrai, non seulement pour les conflits de succession lorsque quelqu'un meurt, mais même dans la gestion des terres. C'est pareil. le chef coutumier est là, le ministère des Affaires foncières est là, mais le chef coutumier, vous n'allez pas chasser un chef coutumier de son terroir, hein. Dans la ville de Kinshasa, on peut pas dire non, la terre appartient à l'État et vous, le chef coutumier, vous ne valez rien. Non, c'est pas possible. Donc il y a la thématique que vous avez choisie est une thématique fort intéressante. C'est l'occasion pour nous de réfléchir. Est-ce que tout ce qui se fait dans la tradition est mauvais? Est-ce que tout ce que la modernité nous apporte est bon? Sinon, il faut nous inscrire dans une logique d'apprentissage de nos traditions pour garder notre identité. Mais puisque tout n'est pas bon dans la tradition, eh bien, c'est le moment de sélectionner ce qui s'adapte à l'évolution du monde moderne et ce qui peut nous permettre d'aller de l'avant.
Bien, merci professeur Lapika Dionfoumou, socio-anthropologue. Nous, on s'arrête par ici, on va mettre un terme à cet entretien. On aura l'occasion de revenir là-dessus prochainement. Merci professeur, excellente journée et à la prochaine.
Bien, merci, à la prochaine.
J'achève cette émission au Capi Service. Merci de nous avoir suivis. Tati Mapoukou a assuré la coordination et la réalisation. Diédoné Nyangassa à la mise en onde. Au micro, Jody Daniel Kachama. Tout le plaisir était pour nous de vous servir. Restez branchés sur la fréquence de la paix. Vous allez suivre tout à l'heure la grande édition du journal de la mi-journée. À la prochaine.